1 Corinthiens 6, versets 12 à 20. C'est pour l'enregistrement que je dis ça. Et en ouvrant la Bible, eh bien, on s'aperçoit que Dieu se mêle de tout. On a vu, Xavier nous a partagé par rapport aux finances, mais Dieu se mêle vraiment de tout. Il se mêle à la fois de ce que l'on mange, à la fois de comment on gère son argent, de ses relations avec les uns et les autres, de comment on éduque ses enfants. Et Dieu donne son avis et donne son projet, en fait, aussi, sur tous les sujets de la vie, et en particulier, et aussi, sur la sexualité. Rappelons-nous un peu tout le long cette question, en quoi Dieu est-il concerné par mes agissements dans ce domaine-là? Alors, j'ai découpé en trois parties, si tu peux afficher le plan. Donc, la première, on va parler de la sexualité qui nous rappelle l'alliance, cette alliance qui a été priée ce matin, et on va développer là-dessus. Ensuite, on va regarder pourquoi et en quoi certaines pratiques s'opposent à cette alliance, à l'alliance de Dieu. Et enfin, on verra la sexualité, c'est une bonne chose et que même elle peut glorifier notre Seigneur. Alors, la sexualité rappelle l'alliance. Quand on regarde le Premier Testament, Dieu accuse le peuple d'Israël d'adultère. J'ai sorti deux versets. Dans Ézéchiel 16, au verset 32, il s'adresse à Israël, il dit « Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. » Dans Jérémie 3, 9, il dit « Par sa criante impudicité, et donc là c'est immoralité sexuelle, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. » Bien entendu, dans ces versets, il ne s'agit pas d'une relation physique entre Dieu et le peuple d'Israël, mais de l'infidélité face à l'alliance que Dieu a conclue. Le peuple a commis un adultère, il nous est dit, avec la pierre et le bois. Il s'est tourné vers un Dieu étranger et a délaissé son époux, Jésus-Christ. Dieu fait alliance avec son peuple. Il entre dans une relation maritale avec son Église, comme nous a été rappelé ce matin, dans laquelle Jésus-Christ est l'époux et l'Église est la fiancée qu'il va épouser. Dans le texte de ce matin, Paul nous dit, au verset 16, « Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle ? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Qu'est-ce que fait Paul dans ce texte ? Eh bien, il compare l'union liée à la sexualité avec l'union avec Christ. Autrement dit, Paul nous rappelle que la sexualité est une image de l'alliance entre Dieu et les hommes. Et c'est pour cela que c'est quelque chose de bon. C'est parce que ça nous rappelle ce que Dieu a fait avec l'humanité. On en parlera un petit peu plus dans le dernier point. La Bible nous dit que la sexualité est quelque chose de spécial, de mis à part. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose... Merci beaucoup. ...qui touche autant notre corps que notre être intérieur. C'est presque un sacrement dans la Bible. C'est presque un sacrement parce que comme la scène... Il nous rappelle l'alliance entre Jésus et son épouse. C'est beau, non ? Enfin, moi, ça m'a touché de réfléchir à ça. Ainsi, la sexualité, c'est un acte d'alliance qui a été donné aux hommes et aux femmes par Dieu. Pourquoi faire ? Eh bien, premièrement, pour fonder une famille, pour ensuite avoir des enfants et pour bâtir une communauté. Et je crois que c'est un acte qu'il faut considérer, premièrement, tu as affiché là, avec sérieux. Avec sérieux. Le pouvoir de donner la vie a été confié par Dieu au travers de cet acte. Et Dieu prend ça très au sérieux. Ensuite, il faut considérer cela avec un engagement permanent. Je crois que c'est Aline qui a prié dans ce sens-là. C'est un engagement permanent. Dieu fait une alliance éternelle. Il ne fait pas une alliance d'une demi-journée ou d'une soirée. Il ne fait pas une alliance d'une année. Il fait une alliance éternelle. Il ne change pas d'avis en cours de route. De même, la sexualité s'inscrit dans cet engagement permanent. Et comme on entend souvent dans les mariages, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Troisièmement, avec un don de soi. Jésus s'est donné pour son épouse. Il a offert sa vie pour son Église. Et de même, Paul au chapitre 7, chapitre suivant, nous rappelle que le corps de la femme appartient au mari. Et de même, le corps du mari appartient à la femme. Ensuite, il doit être réalisé avec amour et respect. Pourquoi ? Parce que Dieu est amour et il aime son épouse jusqu'à venir mourir à la croix pour la sauver. Dans Éphésiens 5, au verset 25, Paul dit ce verset, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Et dans le cadre, enfin, cet acte doit être réalisé dans le cadre que Dieu a défini. Et ça, c'est ce qui est le plus souvent de mal à passer. Rappelons-nous toujours que c'est Dieu qui fait alliance avec les hommes. C'est lui qui en définit les conditions. C'est lui qui définit l'alliance, ce n'est pas nous. Et de même, c'est Dieu qui a créé la sexualité. Et c'est lui qui en définit les usages pour l'unique raison qu'il est Dieu. Voilà, c'est lui qui définit, ce n'est pas nous. On peut rouspéter, on peut lui dire on n'est pas d'accord, néanmoins, c'est lui qui définit les choses. Et ça, c'est très, très, très important. Voilà, on va passer, donc, la sexualité s'inscrit dans la Bible, dans l'alliance que Dieu a faite avec les hommes. On va passer maintenant au deuxième point, c'est qu'il existe malheureusement des pratiques qui viennent s'opposer à l'alliance, à cette alliance que Dieu a faite. Et avec cette partie, il s'agit de comprendre en quoi certaines pratiques n'honorent pas l'alliance de Dieu et donc la sexualité selon Dieu. Il ne s'agit en aucun cas de mettre un poids, bien sûr, de culpabilité sur qui que ce soit, mais de pousser à changer de manière de vivre s'il y avait besoin. Car le salut en Jésus-Christ transforme nos vies. Amen. Est-ce que vous le croyez ? Moi, je le crois. Le salut en Jésus-Christ transforme nos vies pour qu'elles deviennent, jour après jour, de plus en plus conformes à la volonté de Dieu. Amen. Alors, j'ai regroupé en trois... Oui, vous passez les slides au fur et à mesure. Dans le même sac, j'allais dire, la fornication, la pornographie et la prostitution. La fornication, c'est les relations sexuelles, pour les plus jeunes, en dehors du mariage. Le problème ici, c'est les relations sans alliance. C'est ça le problème avec ces trois choses. Il existe un courant de pensée qui laisse croire que l'acte sexuel n'est qu'un acte physique. C'est comme si tu allais à la salle de sport, soulever des haltères ou faire du vélo. La semaine dernière, je suis tombé par hasard sur une émission qui parlait de gens qui sont devenus très obèses et donc qui faisaient des régimes, et il y en a une qui avait perdu beaucoup de poids. Et une des personnes témoignait qu'elle avait pris 100 kilos. Vous imaginez ? Elle avait pris 100 kilos Suite à quoi? Suite à une rupture amoureuse. Personnellement, je n'ai jamais entendu personne prendre 100 kilos parce qu'il avait cassé son vélo d'appartement ou parce qu'il avait perdu son haltère. Et c'est ce que Paul nous dit, c'est ce que Paul nous dit au verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. En fait, pour la traduction du mot corps dans ce verset, il aurait été plus littéral de choisir le mot chair, qui est beaucoup plus profond que corps. La chair dans la Bible, c'est plus que le corps. Elle englobe la partie physique, mais elle inclut aussi une partie de l'être intérieur, de l'âme, des émotions. Et donc, quand Paul dit qu'ils ne font une seule chair, ça implique tout ça qui s'entremêle. Et Paul appuie cette idée parce qu'il rajoute « les deux ne font qu'un ». D'accord ? Une seule chair, les deux ne font qu'un. Le physique, mais aussi l'âme et l'être intérieur s'unissent. C'est beaucoup plus profond que ce que l'on croit. Et donc l'acte sexuel dans la Bible est un acte d'abandon de son propre corps à l'autre pour permettre au-delà de l'union physique, une communion bien plus intime, celle de l'être intérieur de deux âmes. Waouh! C'est ça, la communion, selon Dieu. Il y a plus que des corps qui s'unissent, il y a deux âmes qui s'unissent. Dieu, et Dieu, dans son immense sagesse, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Eh bien, il a voulu protéger cette union intime de la cassure, de la blessure qui ferait saigner, au-delà du corps, qui ferait saigner nos âmes. Et accessoirement, il veut nous éviter de prendre 100 kilos suite à une rupture. La sexualité gratuite n'existe pas, ou plutôt ne devrait pas exister. Cette alliance que Dieu a faite avec les hommes, elle fait appel à un engagement fort. Merci Aline d'avoir insisté là-dessus. Un engagement fort et permanent, à long terme, durable. De nos jours, la pornographie est trop souvent banalisée. Et je pense qu'il faut traiter ce problème dans nos vies avec un très grand sérieux. Alors je vais mettre un petit peu tout le monde à l'aise en donnant quelques statistiques. Ça fait peur quelque part, mais c'est juste pour montrer l'ampleur de ce fléau, qui pour moi est un fléau. En France, juste en France, près de 50% des adultes avouent l'utiliser. Seulement ceux qui l'avouent. On imagine très bien qu'il y en a beaucoup plus. Vous êtes assis, heureusement. 90% des jeunes de 8 à 16 ans. Vous avez bien entendu, de 8 à 16 ans, avouent avoir déjà regardé de la pornographie. Et l'âge moyen où un enfant est pour la première fois confronté à un contenu de ce type-là, c'est 11 ans. 11 ans, quelle horreur, quelle horreur. Dans le monde, 12% de tous les sites web sont des sites pornographiques. Waouh, 12%. 4,2 millions de sites sont des sites web pornographiques et ça représente plus de 420 millions de pages web. C'est juste hallucinant. 68 millions de requêtes par jour, 68 millions de requêtes par jour sont pour ce genre de site avec Internet. C'est-à-dire 25%, un quart de toutes les requêtes répertoriées sur Internet. Donc, je redis le mot que j'ai employé. Pour moi, c'est un fléau. C'est un fléau. C'est juste hallucinant. Je ne m'étais jamais penché sur les statistiques. C'est juste hallucinant. Et laissez-moi nous dire ce matin que ce n'est ni plus ni moins que de la prostitution. Ce n'est pas autre chose. Je voudrais nous rappeler que ce n'est pas juste virtuel. Derrière les photos, derrière les vidéos, il y a des hommes et des femmes bien réels. Et il y a aussi des réseaux de proxénètes qui prostituent contre leur gré des personnes dans des conditions épouvantables. Et pour ceux qui auraient encore besoin d'un électrochoc, appelez Aline peut-être pour discuter de son travail avec Hope and Joy parmi les prostituées. Oui, c'est une horreur. C'est une horreur. La pornographie. Excusez-moi si j'ai un petit peu bousculé ce matin, mais je pense qu'on en a besoin de se réveiller par rapport à cela. Excusez-moi pour ces chiffres si j'ai choqué certaines consciences, mais je pense vraiment que c'est un fléau et que tout le monde est concerné. Toutes les familles sont concernées. Tous les parents sont concernés. Et si vous êtes âgé et que vous n'avez pas d'enfants, vous êtes concerné parce que vous avez des enfants dans l'Église qui sont vos frères et vos sœurs et que vous aimez. Et on doit se battre pour chacun d'eux par rapport à cela. Et je peux en témoigner pour ma propre vie. Dieu nous délivre de ce péché. Il le fait. Et c'est vrai, c'est une réalité. On va passer au second point. Ça va, toujours? J'essaye un peu de temps en temps de faire une pause pour détendre, mais le but, c'est juste de laisser le Seigneur agir dans nos têtes. Et dans nos cœurs, bien sûr. Le deuxième sujet, c'est avoir plusieurs partenaires ou la polygamie. Alors, la polygamie n'est pas autorisée en France, heureusement, encore. On ne sait pas où l'avenir va nous mener. Mais une réponse simple, Jésus a une seule épouse et l'Église a un seul époux. Ils n'en ont pas deux. Et même si une forme de polygamie était tolérée dans l'Antiquité, il est clair que le projet de Dieu, c'est un homme avec une femme avec un homme, afin que les deux deviennent une seule chair. Mais il y a un autre sujet qui nous touche de plein fouet dans celui-là. Et je voudrais rappeler ce matin que oui, l'abstinence, ce mot, c'est un mot qu'on a relégué dans les oubliettes. Entendez-le, la jeunesse, l'abstinence. C'est un super mot. Le fait de se préserver pour son mari ou sa femme, eh bien, dans l'alliance que Dieu a faite, avec les hommes et les femmes, eh bien, ça a beaucoup de valeur. Ça a énormément de valeur. L'idée qu'il faut avoir plusieurs amants pour trouver la bonne personne, l'idée qu'il faut avoir un tableau de chasse bien rempli, eh bien, elle vient du diable, certainement pas de Dieu. Et je m'adresse en particulier aux jeunes par rapport à ça. Si tu veux être fier de toi, réserve-toi pour ton ou ta future épouse. La personne avec qui tu te marieras sera fière de toi. Ta famille sera fière de toi. Ton église sera fière de toi. Et par-dessus tout, Dieu sera honoré de cela. Et aujourd'hui, en 2020, c'est possible. C'est possible. Alors, vous ne l'entendrez pas à l'école, malheureusement. Mais c'est possible de rester abstinent jusqu'au mariage. Et je voudrais remercier le témoignage de Roxane à son mariage, au mariage avec David, parce qu'elle a rendu ce témoignage à Dieu en déclarant qu'elle s'était gardée pour son mari. aujourd'hui, en 2020, au milieu de la jeunesse, c'est possible. Et alors, qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau? Et ma prière, c'est que ce que Roxane a fait, ça inspire toute la jeunesse dans l'Église. Amen. Vous êtes d'accord, les jeunes, de prier comme ça? Je me garde pour Jésus-Christ et pour mon mari ou pour ma femme. La troisième pratique que je vais survoler, bien sûr, parce que ça mériterait d'y passer beaucoup de temps, c'est la pratique homosexuelle. C'est un sujet à la fois clair et à la fois tellement vaste. Je vais juste en dire un mot. La Bible en parle, alors je vais dire deux choses. La première chose, c'est que la Bible en parle comme d'un acte contre nature. Alors, je n'ai pas cité les versets, mais elle en parle à plusieurs endroits. Et Dieu a créé l'homme et la femme avec la capacité naturelle de se reproduire, de bâtir une famille, une communauté. Et bien sûr, cette pratique ne permet pas cela. C'est pourquoi elle est qualifiée de contre-nature. Le projet de Dieu pour l'humanité, c'est la fertilité et c'est la multiplication afin de remplir toute la terre. On voit ce projet dès la Genèse. La deuxième chose par rapport à la pratique homosexuelle, c'est que dans son alliance, eh bien, Dieu s'identifie à un homme et il vient chercher son épouse, sa future épouse, une femme. Le couple en lui-même est l'image, le reflet et aussi le témoignage de cette union mystérieuse, Paul nous dira, entre le Créateur et sa création. Et dans ces deux mandats que Dieu confie à l'homme, celui de remplir la terre et celui de témoigner de son alliance qu'il a conclue avec les êtres humains, eh bien, seule l'hétérosexualité les rend réalisables. Enfin, la dernière pratique qui, bien sûr, s'oppose à l'alliance, c'est l'adultère. Bon là, on n'a pas besoin de trop discourir là-dessus, mais pourquoi? Tout simplement parce que c'est un acte de rupture de l'alliance. Dieu est fidèle envers son épouse. Amen. Dieu est fidèle envers son épouse. Le mariage étant l'image de cette alliance entre Dieu et les hommes, Jésus va défendre le principe de cette alliance permanente. Encore une fois, c'est une alliance permanente. En rappelant que lui-même, Dieu, ira jusqu'à pardonner l'infidélité plutôt que de briser l'alliance de son côté. Néanmoins, l'adultère, bien sûr, n'en demeure pas moins un acte destructeur, au plus haut point en fait, au plus haut point. Il brise un couple, il brise une famille, il brise des familles, et souvent on l'oublie cela. Mais aussi, il porte directement atteinte à l'image de l'alliance entre Dieu et son peuple. Alors, je le redis, le but n'est pas de culpabiliser, bien sûr, ce matin, mais juste d'exposer comment Dieu voit les choses et sur quel chemin nous devons marcher aujourd'hui. En conclusion, je citerai par rapport à ces pratiques qui s'opposent à l'Alliance, Paul, au verset 18, qui dit « Fuyez, tout simplement, fuyez l'immoralité sexuelle. » Point. Fuyez. Il n'y a pas de meilleur mot, je pense, par rapport à cela. Et on va terminer ce message par une bonne nouvelle, c'est que la sexualité est bonne. Elle peut rendre gloire à Dieu. Là encore, j'étais surpris en étudiant ce texte, Mais parce qu'en fait, juste avant, ce que je voudrais dire, c'est que dans l'histoire de l'Église, il y a certains mouvements qu'on appelle puritanistes, puritains, en opposition au libéralisme, ceux qui disent, bon, c'est pas grave, fais ce que tu veux. Eh bien, ils ont pu faire circuler l'idée que la sexualité, eh bien, c'était lié au corps pécheur, et donc que c'était quelque chose de sale, et qu'il ne faut pas en parler, faut pas en parler dans l'Église. Je veux juste dire que ce n'est pas du tout une vision biblique sur cette thématique-là, pas du tout. Paul, dans le chapitre 6, il va dire: Rendez gloire à Dieu dans votre corps. Je ne sais pas vous, mais moi, ça n'aurait pas été mon premier réflexe que de parler de la gloire de Dieu au milieu de la thématique de la sexualité. Mais alors, ça ne me serait pas du tout venu à l'esprit. Et pourtant, Paul le fait. Rendez gloire à Dieu dans votre corps. En faisant cela, eh bien, il a voulu montrer que la sexualité est bonne, que dans le cadre de l'alliance, eh bien, elle sert même à glorifier Dieu. L'acte sexuel est une des démonstrations les plus fortes, les plus expressives de l'amour de Dieu pour les hommes et pour les femmes. Il nous rappelle combien Dieu nous aime, combien il se donne pour son épouse, et donc son épouse pour son époux. Et c'est pour cela que c'est agréable, qu'il l'a rendu plaisant, que c'est un plaisir. Ça aurait pu être quelque chose de mécanique qui nous procure aucune sensation, mais non, il en a fait quelque chose, un grand plaisir. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça nous prépare et ça annonce le plaisir éternel que l'on va avoir d'être avec Jésus. Waouh! Waouh! Une petite parenthèse pour les célibataires. Dans le chapitre juste d'après, que vous pouvez aller lire, Paul ne va pas du tout idéaliser le mariage et en faire une idole. Pas du tout. Il dira que le mariage implique plus de sacrifices, plus de conflits à gérer au sein des relations. Et en fait, il va pointer que le mariage idéal, il n'y en a qu'un, c'est celui que l'on fait avec Jésus. Et le reste demeure, pour le moment, toujours dans une humanité imparfaite. En conclusion, je rappelle la question: en quoi Dieu est-il concerné par mes agissements dans le domaine de la sexualité? Bien, Paul répondra toujours dans le même livre, mais un petit peu plus loin, au chapitre 10, au verset 31, il dira: Soit donc que vous mangiez ou que vous buviez, ou soit que vous fassiez quelque autre chose, eh bien, faites tout pour la gloire de Dieu. La réponse, c'est que ta vie doit glorifier le Seigneur. Et ce qui différencie le chrétien du non-chrétien, c'est que le chrétien a reçu une révélation au travers de laquelle il comprend que sa vie ne lui appartient pas, mais qu'elle est utile seulement si elle sert à glorifier son Dieu. C'est ça être chrétien. C'est changer tout dans sa vie afin de glorifier son Dieu. Et Dieu est glorifié quand je vis ma vie et donc ma sexualité dans le cadre de l'alliance que Jésus a faite avec moi. Je vais laisser David pour la prière, si il est d'accord. Et juste pour finir, je voudrais donner un dernier conseil aux enfants. Pendant vos semaines, les enfants, choisissez quelques jours le soir pour aller vous coucher tôt et laissez vos parents glorifier le Seigneur.
Excellent. Merci, Charide. Je propose qu'on prie directement. Oh Seigneur, qu'est-ce que ton alliance est belle, Seigneur, et combien c'est important de nous souvenir de cette dimension et de cette approche de la sexualité en fonction de ton alliance, Seigneur. Elle n'est pas en fonction de règles, elle n'est pas en fonction de lois, elle n'est pas en fonction de pensée, en fonction d'intellectualisation, elle n'est même pas en fonction d'émotion, Seigneur, elle est fonction de l'alliance que tu as faite avec nous et de la gloire que nous te rendons à l'intérieur de cette alliance. Seigneur, merci de nous avoir rappelé ces vérités ce matin, ces vérités qui sont éternelles. C'est bon, Seigneur, que tu viennes te soucier de tous les domaines de nos vies parce que le chemin dans lequel tu nous mets, Seigneur, c'est un chemin dans lequel il y a plein de bonnes choses. Il y a des bénédictions qui sortent du respect de ces choses que tu nous proposes, Seigneur, de vivre de cette manière-là, Père. On veut vraiment aligner notre sexualité, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, Seigneur, qu'on soit jeune ou qu'on soit moins jeune. Seigneur, on veut aligner ces domaines-là selon ta parole, Seigneur. On veut vraiment être soumis à ce que ta parole dit ce matin, Seigneur, et on veut reconnaître dans ce message qu'a donné Farid, Seigneur, ton autorité sur ces choses-là, Seigneur. Et on prie vraiment que tu viennes continuer à nous parler avec toute ta douceur, avec toute ta grâce, Seigneur. Tu n'es pas la voix dans notre tête qui va nous culpabiliser sur ces sujets, Seigneur. Tu es celui qui va mettre en lumière et qui va accompagner de grâce et d'espoir ces sujets-là dans nos cœurs, Seigneur. Et on prie vraiment que tu continues à faire une œuvre puissante au plus profond de nous, dans chacun des foyers, Seigneur, sur ceux qui ont entendu ici ce matin et ceux qui réécouteront plus tard chez eux, Seigneur. Que tu fasses une œuvre profonde dans les cœurs, une œuvre de douceur, une œuvre de grâce, mais une œuvre de changement, une révolution intérieure, Seigneur, sur un sujet de la sexualité qui s'aligne à ta parole et qui rend gloire à ton Saint-Nom dans le cadre de l'alliance parfaite que tu as choisi de faire avec nous au travers de Jésus-Christ, Seigneur. Nous voulons que dans toutes ces choses-là, toi seul sois glorifié, Seigneur. Merci pour ce cadeau que tu nous as laissé de la sexualité, Seigneur. Nous voulons en faire quelque chose de tellement bon et tellement à ta gloire, Seigneur. Sois Amen. Béni. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses qui ont été soulevées pendant ce message. Peut-être que ça fait écho chez les uns ou chez les autres. Peut-être que ça parle à des plus jeunes. Peut-être que ça parle à des moins jeunes dans des situations que vous connaissez aujourd'hui, dans des situations que vous avez connues, des choses par rapport auxquelles vous bataillez aujourd'hui. On aimerait vraiment vous encourager à ne pas rester seul par rapport à ces choses-là. Dans tous ces sujets, il y a un piège, c'est la solitude, c'est un piège de vouloir affronter seul toutes ces dimensions qui ont besoin d'être réalignées parfois. Et on vous invite vraiment à trouver quelqu'un de confiance et puis à pouvoir partager sur ces choses-là. C'est aussi le but du corps, c'est qu'on puisse s'encourager, s'exhorter, s'édifier les uns les autres. Et donc, sur un sujet comme celui-là, ô combien c'est important de pouvoir compter les uns sur les autres et de pouvoir partager avec quelqu'un dont on a confiance. Je vous exhorte à ne pas exposer sur la place publique ces sujets. Ce n'est pas le but et la Bible ne demande pas ça. Ne protégez-vous et n'exposez pas sur la place publique une intimité de cette sorte-là. Par contre, allez trouver un frère, allez trouver une sœur en qui vous avez confiance. Venez trouver un de l'équipe de responsables, un des anciens, si vous avez vraiment besoin d'une prière de délivrance particulière sur des sujets précis dans vos vies. Venez chercher de l'aide et l'Église répondra parce que c'est vraiment le rôle du corps et le rôle de la communauté. Amen. Vous êtes d'accord? Yes, super.